C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream. A dream.
Bonjour, c'est Charles Cécile pour une nouvelle enquête au pays des conteurs. Là, j'arrive dans une maison de Saint-Herblain où sont autour d'un bon café d'une table Claire Garrigue et la conteuse Angèle Gauduchot. Alors ça discute beaucoup, forcément. Je vais me permettre maintenant d'arriver et d'interrompre les deux femmes.
Je me suis régalée. Et c'est pas toujours.
Claire Garrigue, bon, vous êtes en grande conversation là, toutes deux, Claire Garrigue, Angèle Gauduchot. Bonjour Claire.
Bonjour Charles.
Bon, tu arrives tout droit d'où ça, toi?
Tout droit d'où ça? De Normandie. J'habite en Normandie, dans le Calvados, près de Caen.
Yes.
Yes.
Beau pays, tu y as toujours vécu ou tu es arrivé?
Non, j'y ai pas toujours vécu. Je suis originaire des Pyrénées-Orientales. Tu sais comment ça va en Normandie quand on vient des Pyrénées? Tu le sais? Pourquoi?
Non.
Tu le devines pas? Hein? Tu le devines pas? Qu'est-ce qui peut t'amener une méridionale en Normandie?
Le soleil.
Oh, le soleil. Le soleil du cœur, oui, c'est ça.
Enfin, t'y voilà en Normandie. Mais justement, comment se porte le compte en Normandie?
En Normandie, c'est assez calme. Il n'y a pas beaucoup de... De quoi? De représentation de contes. Il y a quelques festivals, assez peu. Il y a très peu de conteurs, en tout cas en Basse-Normandie. On est peut-être 3, tu vois, c'est pas beaucoup. Hein. Voilà, quelques festivals.
Les bibliothèques, le réseau lecture est riche et dynamique.
Oui, les endroits les plus dynamiques pour le conte, c'est vraiment les médiathèques départementales qui organisent des choses et qui ont à cœur d'organiser des choses dans les petits villages de moins de 1500 habitants, donc avec les petites bibliothèques de près. Donc ça m'arrive souvent d'aller raconter, justement par la BDP ou la MDO dans l'Orne, dans des petites communes, des salles communales où il y a tout le village. Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Un souffle? Le silence? Un son? Une vibration? Le rythme? Une pulsation? Un battement de cœur? La lumière, le vent, un grain de sable, un caillou, un germe ou une graine, un oiseau ou un œuf, la pensée, une idée. Un géant fait de givre, une vache céleste, une mer de lait, un serpent de lumière, un rêve de beauté posé sur les abîmes, le néant. Le chaos. Une danse.
le souffle créateur, la musique du verbe, le ventre de l'amour, un élan, un désir, rêve puissant de vie. Rêve qui prenait vie par 10 000 visages de déesses et de dieux pour inventer le monde.
Sur les mythologies, sur les récits de création du monde. Alors, il y a, je peux pas dire que ça soit très très pointu en termes d'historique des mythologies, parce qu'il y en a plusieurs qui sont de tradition orale, donc qui ont été, je ne sais pas quels éléments ont existé, n'ont pas existé, comment ça a été transformé. Et dans les différentes mythologies présentées, il y en a une qui vient de Finlande, donc qui là a été collectée et écrite, puisque c'est un extrait du Kalevala, donc on retrouve de façon assez constante. Et pour les autres, c'est, je veux dire, il y a certainement une grande partie de fantaisie, en plus que moi je suis pas de ces cultures-là, donc c'est ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de questionner les origines du monde et de voir comment, quand tu es dans une société traditionnelle, par exemple amérindienne, le monde, il ne ressemble pas du tout. C'est pas du tout les mêmes données que quand tu viens de la mythologie grecque. Le monde ne commence pas du tout pareil. Donc forcément, ton lien au monde et à l'univers n'est pas le même. Donc ça, je trouve ça intéressant.
Dans toutes ces histoires, il y a beaucoup de questions de dieu, de déesse, et ça a posé quelques problèmes, non?
Ah oui, c'était amusant, hein, cette affaire-là, parce qu'on a présenté le spectacle avec Christophe Leblon, qui m'accompagne, qui est le musicien, à des journées professionnelles, pour des écoles, des bibliothèques. Et j'ai eu, par exemple, comme question, « Mais vous dites dans votre conte que Dieu a créé 4 races. Pourtant, on dit bien qu'il n'y a pas 4 races sur Terre. » Et donc, j'étais tellement sciée du degré d'interrogation par rapport au fait que c'était des histoires et qu'on racontait. Et il y a eu plusieurs projets d'école qui ont été refusés parce qu'on parlait des dieux et des déesses et qu'on est dans un monde laïque, donc on ne pouvait pas parler des dieux et déesses dans l'école laïque, mais on pouvait pas en parler non plus dans l'école privée puisque c'était pas les mêmes dieux et déesses que ceux qui étaient présentés dans l'école privée. Donc on ne pouvait pas parler de dieux et de déesses. Ah, ça...
Les seuls qui passent un peu, c'est les dieux.
La déesse avec les pouces. Tu sais, Nintendo, c'est quand on dit déesse, les enfants ils disent ah oui, la déesse. Voilà. Et donc en particulier en ce moment où quand même on a une espèce une montée de l'intégrisme religieux, je trouve ça quand même très important que on puisse entendre des façons de voir différentes du monde et de la conception du monde, et que les dès enfants on sache que on pense le monde d'une manière, mais qu'ailleurs il est pensé d'une autre façon. Enfin, ça me paraît quand même le pas vers l'acceptation de l'autre, quoi, vers la tolérance et le.
Ça serait une première explication de à quoi ça sert de raconter des histoires. Il y en aurait d'autres.
Ben, en tout cas, celle-là, c'en est, par rapport à ces récits-là, oui, c'en est une belle, ça, c'est sûr. Il y en aurait d'autres, il y en a sûrement d'autres. Il y a le côté, évidemment, plaisir de jouer avec les mots, avec le langage, avec la vie, avec le monde, avec ce qui nous entoure. Le plaisir de jouer, et puis, cette façon particulière qu'ont les contes de parler, avec un langage symbolique et archétypal, mais qui va parler différemment à chacun et qui va aller toucher des zones émotionnelles profondes, mais d'une façon qui n'est ni intellectuelle c'est pas tellement mental, ça marche par le ressenti, et comme on est dans la parole et dans l'imaginaire, on peut aller comme ça toucher l'air de rien des endroits sensibles, et puis les dénouer, et puis les nourrir. C'est vraiment la stratégie de Scheherazade qui raconte à Shahriar pour le ramener à la raison. L'air de rien. Hein, voilà, comme ça. L'air de rien. Des histoires pour rien, pour sa petite sœur. Et puis elle le guérit de sa folie. Comme ça.
Le compositeur Gerardo Reyes Lecam, Salomon.
Au commencement de ce monde-ci, il y avait quatre mondes. Quatre mondes étagés l'un par-dessus l'autre, quatre mondes sombres et malodorants, qui sentaient mauvais. Et au-dessus de ces quatre mondes s'étendait la terre. La terre déjà formée, la terre toute belle, avec ses lacs, ses forêts, ses océans, ses plaines, ses montagnes, ses déserts, ses glaciers, ses vallées, ses rochers, ses volcans. La terre toute belle. Et au-dessus de la terre rayonnait le Père Soleil. Mais le Soleil se désolait, car sur Terre, il n'y avait personne pour avoir conscience de la beauté de la création. Personne pour l'honorer, lui, le Père Soleil. Personne pour lui dresser des bâtons de prière. Cela le navrait vraiment. Cependant, dans le quatrième monde du dessous, le monde le plus obscur, vivaient des créatures non achevées. Elles étaient à moitié hommes, à moitié animal.
au commencement de ce monde-ci, il y avait l'air, mais pas la terre. Et dans l'air était la fille de l'air. Elle s'appelait Ilmatar. Ilmatar, ou bien encore Luonotar, vierge de l'air. Ilmatar, déesse première, grande géante au corps immense, vit seule dans l'air. Toujours seule à tisser ses jours, toujours seule à filer ses nuits. Peine étrange, elle vit d'ennui. Toujours seule, pendant des années, des semaines. Le vent lui soulève des vagues, il la retrousse et la chavire, le vent la roule et la bouscule, et voilà que la mer lui plante un petit au fond de son ventre. Elle le porte des semaines, elle le porte pendant des mois, elle le porte des années. Ilmatar ne peut engendrer. Elle implore l'esprit de vie. Oko, arrive auprès de qui t'appelle. Apporte l'aide à qui demande. Elle s'alourdit, s'alanguit. Et la voilà qui s'ensommeille, son corps tout entier dans la mer. Tulisotka, Suoralitu, Lenti iat, Lenti lanet, Lenti luote het etelat. Du fond du ciel arrive un joli canard à bec bleu. Il cherche une île où se poser, un endroit où faire ses œufs. Mais partout il n'y a que l'air, partout il n'y a que la mer. Il crie, il supplie, il appelle. Ferai-je ma cabane au vent? Poserai-je mes œufs sur l'eau pour qu'ils se perdent au fond des flots? Qui l'entendra?
Olimpa impilman tyttö, kävel Luonotar korea, piti vikoista pyhyttä, iän kaiken impehyttä. Ilman pitkillä pihoilla, tasaisilla tanterilla, ikävys tui aikojansa, ouos tui elämä tansa, aina yksin olisansa, impänä eläessansa, ilman pitkillä pihoilla, avaroilla, autioilla.
Est-ce que tu es autant musicienne que conteuse, autant conteuse que musicienne? Est-ce que les deux disciplines finalement sont très mélangées dans ta pratique? Comment ça se passe, toi et la musique?
Moi, la musique, alors en termes d'heures passées à travailler, par exemple, la chanteuse, ça fait beaucoup plus longtemps que je suis chanteuse que conteuse. J'ai commencé il y a bien, bien longtemps, mais comme tout ça, quand même, ça vient travailler sur la voix et que je suis musicienne surtout par le chant, tout ça se rejoint et tout ce travail de autour du chant et de la voix est venu irriguer profondément la parole conteuse. Donc c'est assez mélangé pour moi. Je me souviens de Bruno de La Salle au Clio, donc je suis allée pendant 3 ans, et qui demande à tous les gens qui étaient là, mais pourquoi vous voulez mettre de la musique dans vos histoires? Et alors tout le monde cherche des réponses intelligentes. Et puis, moi aussi je cherche d'ailleurs. Et elle me dit, et toi alors pourquoi tu veux mettre de la musique? Je dis, mais je peux pas faire autrement, Bruno. C'est parce que c'est là. Alors, ah, ça pourrait être une bonne réponse. Voilà, c'est le... Et je sais que pour les histoires, pour moi pendant longtemps, je savais que l'histoire était là parce que elle m'avait donné sa musique, c'est-à-dire que j'avais une petite musique qui synthétisait l'histoire et hop, je savais, comme d'autres pour avoir une image ou une sensation, moi c'était une musique, une chanson qui, ça marche comme ça. Mais ça c'est ma mécanique interne, je sais pas pourquoi. Hein.
Est-ce que tu as souvenir de ce qui a au départ motivé le fait que tu arrives au conte? Est-ce que c'est arrivé un jour, un matin
Ah oui, je me rappelle très bien, en fait. Pendant longtemps, la première conteuse que j'ai entendue, c'était Catherine Darcat. J'étais étudiante à Paris, je faisais des études d'infirmière, donc c'était assez loin du conte, tout ça. Et elle racontait Bazar de nuit. Et moi, j'ai adoré entendre ça. Mais bon, voilà, j'ai été écouter des conteurs comme ça. Je trouvais ça vraiment fantastique, mais vraiment à aucun moment je serais dit que j'allais me mettre à raconter des histoires. Et puis des années ont passé, j'étais infirmière, tout ça, j'ai vieilli. et puis il y a la conteuse Mimi Barthélémy que je connais depuis très longtemps, qui m'a dit une fois, tu devras les voir, il y a une association de conteurs près de chez toi, ils sont formidables, qu'est-ce qu'ils sont sympathiques, tout ça. Et à ce moment-là, moi, je faisais de l'éveil musical auprès des enfants dans les écoles, en plus d'être infirmière, comme ça, une petite série de mallettes. Donc, elle me dit ça une fois, elle me dit ça deux fois, elle me dit ça trois fois. La troisième fois, je me dis, bon, je vais aller voir, c'est comme dans les histoires. Donc, je finis par aller voir. Et j'arrive dans cette association de conteuses, où c'était beaucoup de vieilles dames, d'ailleurs. Ça ressemblait presque à un cours de catéchèse. Ça fait un côté comme ça, dans un appartement. Mais toutes ces dames racontent des histoires, et aux surprises, je connaissais toutes les histoires qui étaient racontées. Et ça m'a fait un petit choc, quoi. C'est parce que je les avais oubliés. Et j'ai eu vraiment l'impression de rentrer chez moi, en fait. C'était vraiment retour à la maison. Ah ben ça, je connais vraiment bien. C'est inscrit profondément. Et donc j'ai commencé à être là. Au début pour accompagner en musique, après pour chanter. Puis je me suis mise à raconter. Et c'est les retours des autres qui m'ont dit, mais raconte quand tu racontes, mais raconte. Vas-y, t'es conteuse, quoi. Enfin, je me suis jamais dit je vais devenir conteuse. C'est pas comme ça que ça s'est fait.
C'est...
Il m'attarde, se met à nager. À grande brassée, elle nage. Sa tête au-dessus de la mer, haute proue par-dessus les vagues. Elle commence ses genèses. Elle engendre ses créations. Quand elle frappe de ses pieds nus le dos écumant de la mer, des îles naissent, des récifs pointent. Elle s'approche du rivage, des caps se dressent sous sa caresse. Elle modèle les falaises de ses grandes paumes de ciel. Elle pose sa lourde tête, les béos au calme se forment. De ses reins, elle lisse les grèves, plage douce.
Pendant, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis conteuse. En même temps, j'avais donc cette compagnie de théâtre Chanter X-Fille, qui c'était vraiment un partage du temps assez conséquent. Et j'ai aussi la sensation, là, que pendant 15 ans, j'ai un peu fait mes classes, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait du tout terrain, j'étais dans les campagnes, j'ai raconté dans plein de conditions, toutes sortes de je me suis un peu aguerrie de le métier qui rentre, quoi. Et que là, j'ai envie de peaufiner la matière, après, avec laquelle je vais aller.
Tu as un projet avec une autre conteuse et un musicien. Tu peux nous en dire un tout petit mot?
Oui, le projet en cours qui s'appelle « Le triangle des mésanges ». Je pense que ça va être son petit titre. C'est comme un peu le triangle des Bermudes. On va passer des portes avec donc Serge Tamas, qui est guitariste, compositeur, auteur, qui raconte aussi. Et puis Magdalena Gorska, qui est conteuse et chanteuse. Donc on se connaît depuis un petit moment. Ça fait longtemps qu'on a envie de travailler ensemble. Avec Magda, on a quelques chants de répertoire en commun, on adore. Toute cette envie de faire de la musique et de raconter. Et puis, on était préoccupés par les mêmes choses à sur quoi raconter dans cette époque, dans ce moment un peu de changement où il y a toutes les peurs, tout ça. On a eu très envie de travailler sur des contes qui ont trait à la métamorphose, à la transformation, sur des contes aussi où tu as des portes et tu vas d'un univers à un autre, et c'est pas grave, la vie, tu changes, voilà, des contes qui nous aident dans les changements et les transformations. Donc ça, c'est ce qui nous a guidés dans le choix des histoires, et puis notre envie de faire de la musique ensemble. Donc voilà, ça devrait...
Toi, tu comptes pour les enfants, les familles, les adultes, pour tout le monde, pour...
Moi, j'aime beaucoup faire du conte tout public, c'est-à-dire je travaille J'ai pas de répertoire qui soit à proprement parler jeune public. Je travaille pas mes histoires de cette façon-là. J'ai travaille ce que j'ai à cœur, c'est que ça me parle, mais que tout le monde puisse y trouver son compte. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que les grands, ils sont là, ça leur parle à un niveau. Les petits, ils sont là, ça leur parle. Et j'aime beaucoup le spectacle tout public. Comme dans les goûters d'histoire.
Si Pierre Garrigue est venu à Saint-Herblain, c'est pas simplement pour répondre à mes questions, c'est aussi pour raconter, dans le cadre d'une programmation régulière et mensuelle, mise en place par la compagnie La Lune Rousse et qui s'appelle les goûters d'histoire.
Au commencement de ce monde-là, il y avait grand-père Tunkashila. Grand-père Tunkashila avec son calumet et sa tabatière. Grand-père Tunkashila ne se sépare jamais ni de son calumet ni de sa tabatière. Ce sont ces deux objets magiques de création. Dans la fumée de son calumet, il crée, et de sa tabatière sortent ses créations. Grand-père Tunkashila est assis sur sa tabatière et il se laisse dériver tranquillement sur les eaux qui ont recouvert toute la terre. Il faut vous dire qu'avant ce monde-ci, grand-père Tunkashila avait fait un autre monde. Mais les hommes de ce temps-là ne savaient pas jouer de la musique, ni raconter des histoires, ni même danser. Leur esprit était obscur, et cela ne plaisait pas à Tunkashila. Alors, il avait résolu d'effacer sa création, même si c'était lui qui l'avait faite. Il avait chanté trois chants, et le ciel s'était ouvert.
Par rapport à tes projets de création, tu m'as dit que tu suivais bien sûr tes envies, mais aussi que, à plusieurs, vous réfléchissiez sur les besoins de l'époque actuelle. Quand tu dis que, avec tes complices Serge Tamas et Magda Gorska, vous avez réfléchi aux histoires dont on a besoin à notre époque, tu peux préciser un peu ?
En tout cas, oui, il y a une montée quand même, effectivement. On a l'impression que tout est poussé comme si tous les potards là sur la machine sont poussés à fond. Il y a des choses terribles qui arrivent. Il y a des grandes peurs. Il y a des choses aussi magnifiques. Enfin, tout à la et un peu
en tension, quoi.
Oui, en tension. Et il y a beaucoup de peur, voilà. Et on avait l'impression que quand même le maître mot de tout ça, c'était la peur. Enfin, on peut le voir dans notre pays de France. On a l'impression que c'est, enfin, en tout cas nous, on avait l'impression que c'est la peur qui préside à toute l'organisation du pays, économique, policière, judiciaire. Que c'est la peur de manquer, c'est la préservation, c'est la peur d'être envahi, c'est la peur. Et comment on va apaiser, accompagner ces peurs, et que la transformation c'est quelque chose. Donc peut-être c'est plus précis comme ça.
Alors grand-père Tunkashila reprend son calumet, fume un peu plus longuement et ouvre sa tabatière. Et cette fois-ci, de la tabatière est sortie tortue. Va, tortue, descends au fond des océans et ramène une poignée de terre, que je puisse créer le monde nouveau. Et tortue est descendue longtemps, longtemps, si longtemps que là-haut corbeau s'est mis à pleurer.
Il n'y aura donc jamais de terre nouvelle pour que je puisse me reposer.
Tortue descendait toujours si longtemps, si profondément, que là-haut loutre et castor ont dit:
tortue doit être morte depuis le temps qu'elle a plongé.
Ma tortue n'était pas morte. Elle descendait toujours. Si longtemps, si profondément, qu'elle a touché le fond des océans.
On a écouté dans d'autres émissions, par exemple, le conteur Djihad Darwish qui se balade de long en large sur les chemins la nuit pour préparer ses contes, qui imagine ses personnages. D'autres passent plutôt par l'écrit. As-tu une méthode, toi, de travail, comme tes petits secrets de fabrication?
Ben, si je regarde les différents spectacles, je pense que j'aime bien expérimenter aussi les méthodes. J'ai toujours l'impression d'être à la course pour chercher des outils pour faire ça mieux et faire ça mieux et faire ça mieux. Donc, je commence à avoir un certain nombre d'outils dont je me sers. Et puis, quand je veux aller faire quelque chose que je sais pas faire ou que j'ai envie d'affiner, je suis aussi à la recherche d'outils. Après, les histoires, moi, je les porte longtemps. Hein. Une histoire, elle peut me trotter dans la tête pendant une année. Et j'aime ce compagnonnage avec l'histoire à fleurs. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a tout un travail qui se fait dans la profondeur, comme ça, qui est un peu mystérieux. Je saurais pas. Et puis, pouf, ça finit par arriver. Mais c'est assez marrant. Dans Conte sous un papillon, il y a une histoire que je vais raconter qui s'appelle La fête de Moussac, que j'ai entendue une fois, racontée par une conteuse qui s'appelle Thérèse Perras. Après, j'ai retrouvé l'histoire, mais bien plus tard, écrite là, de la main d'Henri Gougaud. Mais cette histoire, je l'ai entendue, elle m'a plu. J'ai noté les éléments, on va dire, de la trame, hein, l'ossature de l'histoire, tout de suite. Et puis après, j'ai laissé reposer. Et quand elle est ressortie, il y avait plein de choses mais qui n'étaient pas dans l'histoire, mais qui étaient arrivées là. Et il y avait, enfin voilà.
Des choses qui t'appartenaient, en fait, et qui se sont ajoutées, qui se sont mariées, en quelque sorte, avec le texte initial, quoi.
Sans doute, oui, peut-être. Peut-être, ou que l'histoire rejoint d'autres courants plus profonds et que tu te laisses. J'ai plutôt l'impression que c'est une mise à disponibilité aussi de sa personne à des courants assez profonds et de se laisser irriguer par ces courants. C'est quelque chose, pour moi, c'est de cet ordre-là. Comme on se met dans la nature, au pied d'un arbre, on se pose. Et puis, des choses arrivent parce qu'on laisse de la place pour qu'elles arrivent. Je travaille... en fait, je fais rien, finalement. Surtout, ne rien faire, laisser faire.
Nous sommes en compagnie de la conteuse Claire Garrigue.
Thank you. Après, il y a l'autre méthode que j'ai aussi appris et qui m'est plus difficile, mais qui porte aussi ses fruits, qui est l'écriture. C'est comment tu écris, tu réécris, tu re-réécris, tu réécris jusqu'à ce que l'écriture, elle soit en parfaite adéquation avec le sentiment que tu veux amener. Ça, c'est comme l'écriture musicale, en fait. C'est, pour moi, ça rejoint vraiment la composition de la musique. Et ça, c'est aussi un travail que j'aime bien faire.
Ça paraît un petit peu antagonique, ça, écrire pour l'oralité. On peut comprendre que écriture musicale et écriture papier, bon voilà, telle qu'on la connaît, hein, ça se comprend bien, mais la littérature orale, qu'est-ce que c'est ? Toi, pour ton travail de conteuse, est-ce que tu passes par le papier ?
En fait, je m'aperçois que quelquefois je suis passée par l'écrit avant comme un exercice, mais la plupart du temps, je raconte l'histoire plein de fois, et puis quand elle arrive enfin à la forme que je trouve satisfaisante, qu'elle s'est modelée et aussi qu'elle a vécu avec le public, parce qu'il y a toute la partie avec le public qui nous échappe, qui est l'autre moitié de la vie de l'histoire, hein. Il y a ce qu'on imagine dans sa tête et puis il y a ce qui se passe, ce que tu renvoies. Quand elle a sa forme, en fait, je prends un enregistrement et j'écris le texte qui est sorti dans le moment. Donc, il y a, c'est un texte qui est assez mouvant jusqu'à un moment où ça se fixe.
Au commencement de ce monde-ci.
Au commencement de ce monde-là, il y avait Corbeau. Drôle de personnage, ce corbeau. Voleur, menteur. Mais quelle créativité, quelle imagination! En Alaska, on raconte que c'est lui qui a créé le monde. Et voilà. Le monde vient d'être créé. Et le monde de Corbeau est beau. Seulement, personne ne peut le voir parce qu'il est plongé dans l'obscurité la plus totale. Pourtant, la lumière existe. Mais où est-elle cachée ? Chaque jour, la jeune fille sort de la maison pour aller boire à la source. Et là, elle laisse toujours son petit bol. Corbeau, puissant magicien, prend l'apparence d'un grain de sable et il se cache au fond du bol. La jeune fille sort de la maison et elle va boire à la source. Puis elle rentre dans la maison. Et voilà qu'elle se retrouve enceinte, parce qu'elle a avalé le grain de sable. Au bout de 9 lunes pleines, elle met au monde un beau petit bébé. Ce bébé, c'est Corbeau, mais personne ne s'en doute. Le bébé ouvre les yeux. Il voit les sacs de lumière accrochés au mur.
C'est ça que je veux, la lumière. C'est ça que je veux, la lumière.
C'est ça que je veux.
la lumière.
Mais le bébé est trop petit pour prendre la lumière tout seul. Alors en attendant de grandir, il fait du charme à sa maman et à son grand-père.
Oh, qu'il est mignon ce petit, il est adorable. Oh, le grand-père ferait n'importe quoi pour le faire sourire, son petit-fils. Oh, et l'enfant grandit.
Bientôt maintenant se quitter. Moi, je te remercie vraiment beaucoup pour ce contact juste avant le spectacle de cet après-midi. J'ai toujours un moment un petit peu particulier. Quand on veut te trouver, est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Est-ce que tu as
Oui, j'ai un, j'ai un site là qui vient de faire, qui est très où il y a tous les renseignements. Voilà.
Alors on fait
www.clairegarrigue.org.
Voilà. Ben c'est dit. Donc on te retrouvera sur le net ou ailleurs. Claire, merci. Bon spectacle pour cet après-midi. Chez les conteurs, je ne sais pas si on dit merde comme au théâtre. On dit des choses comme ça avant.
Je ne sais pas, tu peux me dire ce que tu veux. Charles, je prends. Si tu me dis bonne chance, je prends aussi.
Alors, je te dis bonne chance. À bientôt.
À bientôt.
Voilà, une heure hors du temps qui se termine pourtant avec la conteuse Claire Garrigue qui nous a promené dans ses récits de création.
Comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse, sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.